Au Café Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission au Capi Service en direct de l'IFASIC à l'occasion de la journée de la radio. Nous sommes là en face des camarades étudiants. Applaudissez très 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 fort. Voilà, c'est l'ambiance qui règne ici à l'IFASIC. Bienvenue dans cette production spéciale au Capi Service à l'occasion de la journée de la radio. Au menu de cette émission, nous allons parler du rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix. Et en deuxième partie, nous allons aborder un autre thème, c'est comment réussir sa vie académique. Alors, comme intervenant pour la première partie de cette émission, nous avons Monsieur Léonard Moulamba, journaliste et ancien rédacteur en chef de Radio Okapi, et nous allons également échanger avec Monsieur Paulin Mabunda Makinu, président de la Confédération Nationale des Radios Communautaires de la RDC. Merci de nous écouter partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Et merci à toute l'équipe de production. Tati Mapoukou, Sylvain Baugwere, Daniel Wangisha, Unité Multimédia et le département d'Outreach de la MONUSCO. Et en partenariat avec l'UNESCO, sous vos applaudissements, bienvenue à tous.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Bien, le monde a célébré le 13 février dernier la 8e édition de la Journée mondiale de la radio autour du thème « Dialogue, tolérance et paix ». La RDC compte plusieurs radios d'information générale ainsi que des radios de proximité dans les zones rurales. Et d'après les experts, la radio a un impact réel dans la société car elle reste le moyen le plus accessible aux populations. Alors comment une radio peut-elle promouvoir le dialogue, la tolérance et la paix? Je commence avec Monsieur Léonard Moulamba. Vous pouvez prendre le micro. Vous êtes journaliste et ancien rédacteur en chef de Radio Okapi. Bonjour.
Bonjour. C'est un plaisir de revenir ici à l'ISTI, IFASIC. J'ai terminé en 1985. Je suis parti d'ici. Donc, je suis un ancien de l'IFASIC. La radio au service de la paix, au service du dialogue, au service de la tolérance. Radio Okapi, c'est l'expression de ce travail-là. Radio Okapi, vous pouvez lire sur les panneaux qui sont là, la fréquence de la paix. Radio Okapi, depuis sa création, est au service de la paix, est au service de la promotion de la paix.
Et comment tout cela a commencé?
Je rappelle que en 2002, Radio Okapi a commencé, 2002, le 25 février 2002. La MONUC à l'époque, par l'accord qu'on appelait l'accord de SOFA ou l'accord de siège qui a été signé le gouvernement congolais.
D'accord.
Il était prévu une disposition là de créer une radio qui va accompagner le processus de paix de Nations Unies. C'est ainsi que Radio Okapi a vu le jour le 25 février 2002. J'ai fait partie de la première équipe, les 15 premiers journalistes et techniciens qui ont commencé cette aventure. Radio Okapi démarre le 25 février, date symbolique pour les Congolais. Le 25 février débute à Sun City en Afrique du Sud, ce qu'on a appelé le dialogue intercongolais. Je rappelle un peu la géopolitique de l'époque. Le Congo est divisé en trois morceaux. Il y a la partie est du pays occupée par le RCD, la partie nord par le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'est le RCD de Azarias Rubéroy, et la partie ouest avec le gouvernement congolais, le gouvernement de Joseph Kabila. Alors, les acteurs de ces différents morceaux, les acteurs politiques qui dirigeaient ces différents morceaux se retrouvent à Sun City sous l'impulsion de Nations Unies pour dialoguer, pour discuter, pour chercher les voies et moyens, comment retrouver la paix dans notre pays, comment réunifier le pays qui était divisé, le pays qui était occupé par différentes milices. Voilà comment Radio Okapi commence ce jour-là, le 25 février, et la première équipe de reportage de Radio Okapi est descendue à Sun City pour faire vivre aux Congolais ce jour, donc les travaux qui se déroulaient en Afrique du Sud.
Alors, Léonard Moulamba, dites-nous concrètement comment Radio Okapi a contribué à la construction du dialogue de la tolérance et de la paix.
Vous connaissez sans doute l'émission appelée Dialogue entre Congolais, c'est l'émission phare de Radio Okapi. Cette émission a commencé le premier jour du dialogue intercongolais, dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Cette émission a eu le privilège de mettre ensemble autour du micro Azarias Rubéroy, Jean-Pierre Bemba, Olivier Kamitatou.
Alors que le pays était divisé à l'époque.
Le pays était divisé. Donc les protagonistes de l'époque,
oui.
On a réuni ces gens autour du micro pour dialoguer, pour parler de l'avenir du pays. Donc nous avons fait, nous journalistes, ce que nous avons appelé la diplomatie des ondes. Nous avons réuni ces gens pour négocier et c'est ça qui a permis aussi d'une certaine façon que, qu'on brise la glace et qu'on aille de l'avant.
D'accord. Je vais donner la parole à monsieur Paulin Mabunda. Voilà, il est le président de la Confédération nationale des radios communautaires de la RDC. Monsieur Paulin, encore une fois, bonjour.
Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis monsieur Paulin Mabunda, un ancien de l'Université catholique et également de un master à radio spécifique.
Voilà, dites-nous monsieur Paulin, comment les radios communautaires, par exemple les radios de proximité, travaillent pour le dialogue, la tolérance et la paix.
Les radios communautaires, de par leur organisation et leur fonctionnement, ce sont des radios des communautés. Qui dit communauté parle de l'unité au niveau de nos différentes communautés. Ça peut être un village, un quartier, ça peut être un village, un territoire. Ça peut être également une organisation des femmes comme des jeunes. Et de par celle-là, nous pouvons dire que c'est une radio du peuple, par le peuple, pour le peuple, n'est-ce pas? C'est une radio qui a eu pas mal à résoudre des problèmes, des conflits intercommunautaires à travers le pays. Vous avez suivi dernièrement qu'il y avait les conflits au niveau de Yumbi. Et tout simplement, puisqu'il y avait l'absence d'une radio, et l'autorité, malheureusement, qui est sur place, a dit bloquer la radio de Yumbi qui était en train de chercher à unir les communautés. Voilà que pendant que la radio ne fonctionnait pas, alors les communautés devant cette impasse, et s'est permis nécessairement de s'attaquer les uns les autres. Donc la radio contribue vraiment d'une manière importante.
Et pourquoi cette radio de Yumbi a été fermée?
Bon, vous savez, généralement, les radios communautaires sont victimes des actions politiques. Je souligne ici, tant que président, puisque c'est ce que nous vivons chaque jour, et que quand il y a occupation dans une de nos territoires du pays, et généralement, le premier instrument que l'on tombe sur ça, c'est la radio. Et très souvent, la radio est prise par soit les assaillants, soit par rebelles.
Alors, parce que c'est le moyen,
pour eux de communiquer avec la communauté.
Oui.
Donc nous sommes victimes de par tout ce qui se passe ailleurs. Alors que la radio est là pour combler les vides sur toutes les radios communautaires, les vides de la radio nationale. Alors, comment est-ce que la radio contribue dans la résolution de conflits pour apporter la paix? C'est là où nous disons que le rôle capital, excusez-moi, puisque j'avais pu noter quelque chose, le rôle capital de la radio, c'est celui de stimuler les débats publics. C'est également celui d'édifier les sociétés d'une manière harmonieuse. Et enfin, nous disons que La radio est là pour renforcer les engagements des citoyens et également instaurer la compréhension mutuelle. Et cette compréhension mutuelle ne peut passer que par le débat. Nous sommes là pour donner la possibilité, donner la voix aux sans-voix. Les gens qui ne peuvent pas parler, mais qui ont la possibilité de parler par la radio. Il y a de ces informations qui passent dans un coin d'un territoire et qui ailleurs ils n'en ont pas. Mais alors qu'avec la radio, il y a au moins toute la communauté est saisie au même moment et les gens peuvent avoir l'information au même moment et également discuter. Notre participation, c'est le fait même que nous arrivons à accorder la parole à la population. C'est là où intervient même notre objectif, c'est celui de... avec les thèmes que nous avons fêtés en 2016, la radio c'est vous. En fait, là nous avons célébré les publics qui devaient en principe participer, pas seulement au niveau du micro pour parler, mais participer dans l'organisation et dans le fonctionnement, même dans la programmation au niveau des radios, surtout des radios
administratives et communautaires. D'accord, je reviens à vous, M. Paulin, il est temps d'accorder la parole au professeur Jean-Chrétien Ekambo, qui est communicologue. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Voilà, vous pouvez nous faire un rappel historique. Comment est-ce que la radio a commencé, la naissance de la radio, et quel est le rôle de la radio? Ou quelles sont les différentes missions de la radio?
Bon. De toute façon, la radio, c'est une invention collective. Donc, on ne peut pas l'attribuer à un individu. C'est un peu comme si aujourd'hui, on cherchait à connaître la paternité de la voiture. Personne n'a inventé la voiture, il y en a qui ont inventé le pneu, d'autres qui ont inventé le moteur, le volant, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ce que l'on peut retenir, c'est que la radio résulte de la succession des inventions liées à l'électricité au 19e siècle. Et si nous pouvons nous situer, donc toutes les inventions qui ont contribué à l'avènement de l'électricité ont permis également à ce que la radio puisse prendre pied. Mais si nous devons vraiment donner une date, parce qu'il en faut une, moi personnellement, je prends toujours la date du 2 novembre 1920. C'est ce jour-là qu'une radio, la radio KDK, la radio américaine, ayant obtenu une licence d'exploitation commerciale, a donné ce jour-là la possibilité d'un journal en continu toute la journée. Et à partir de ce programme de la radio KDK en 1920, nous avons aujourd'hui la formule de la radio telle que nous la connaissons.
Et en RDC?
En RDC, la radio commence à Léopoldville, à Kinshasa, en 1937. C'est la radio des prêtres catholiques au Collège Albert. Aujourd'hui, c'est exactement le 5 janvier 1937. Qu'il y a eu la première émission, mais ce n'était qu'une expérimentation, parce que cette radio ne fonctionnait que deux heures par jour.
Oui. Et aujourd'hui, professeur, quel état des lieux vous faites du paysage médiatique, des radios, la situation des radios
dans notre pays? La radio est devenue le média principal dans notre pays aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre, après Radio Okapi, l'expérience de Top Congo, qui est en train de s'aimer à travers le pays, après la RTNC bien entendu. C'est dire qu'aujourd'hui, la radio, c'est le média national.
Et comment la radio peut contribuer à la construction de la paix, du dialogue, de la tolérance, professeur?
Les deux. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un discours que je ne partage pas trop. La radio peut aussi bien amener la tolérance que l'intolérance. Nous ne devons pas oublier que la crise politique dans notre pays a certes commencé au niveau des institutions, mais c'est au sein d'un studio de la radio nationale, le 5 septembre, que le président de la République est venu démettre le Premier ministre Lumumba, et que le Premier ministre Lumumba lui est venu aussi démettre le président au sein du studio de la radio.
Donc ça peut aussi être un instrument d'intolérance. Et on évoque aussi souvent le cas de la radio Mille Collines au Rwanda, qui a été utilisée pour inciter les gens au génocide.
Cette radio est devenue emblématique, c'est vrai, mais encore faut-il dire que la crise entre Hutu et Tutsi ne commence pas avec Mille Collines. Cette crise à ce génocide commence bien longtemps avant. Disons que la radio est venue tout simplement servir de flamme en ce moment où la crise n'était plus seulement interethnique, elle était déjà devenue politique.
Bien, est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour nos différents intervenants? Y a-t-il des questions? On va prendre des questions. Tati, il y a déjà un étudiant de l'autre côté qui lève la, le doigt. Donnez-nous juste votre nom, la promotion, et puis vous posez la question.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Ramazan Yuma, étudiant en G1B. D'abord, je suis très content de voir la radio Okapi aujourd'hui, qui est ma radio préférée, et j'ai l'espoir de travailler un jour au sein de cette radio. Oui, c'est ça. En fait, j'ai des questions à vous poser. La première est de savoir pourquoi la radio Okapi n'est pas télévisée. Et la seconde, pourquoi qu'elle ne parvient pas à créer sa propre agence de presse pendant qu'elle a beaucoup de moyens. Merci.
Alors, vous n'avez pas posé de questions en rapport avec le thème du jour. D'accord. D'autres questions? Nous parlons aujourd'hui du rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix. Bonjour, monsieur.
Merci. Je réponds au nom d'Isaac Kaba Mintambwe, G1A. Je veux savoir une chose. Je vais parler de la tolérance, du dialogue ainsi que de la paix.
Pardon, ceux qui ont des questions peuvent aller au milieu, dans le couloir, et après vous allez rapidement vous exprimer au lieu de que Tati puisse courir dans tous les sens. Allez-y.
Si nous essayons un peu de voir, il y a certaines radios qui cachent la vérité, qui ne nous disent pas la vérité. Et il y a aussi certains journalistes qui ne sont pas tolérés à passer dans certaines radios. Directement, nous allons dire que ce thème-là n'est pas parfaitement... comment pourrais-je dire, respecté dans notre pays à propos de la radio. Alors pourquoi cela se passe ainsi?
Vous avez des exemples? Vous dites que les radios ne contribuent pas
à
la construction de la paix?
La RTNC ne parle pas la vérité. Eux cachent la vérité, à part le match. Donc, c'est ça. Et il y a certains...
Est-ce que vous avez des preuves?
Tout le monde ici connaît cela. Est-ce que je mens?
D'accord. Le suivant,
oui.
Quel est le rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix? Oui, monsieur, bonjour. Oui,
merci, je m'appelle Kabika Kalondacho, je suis étudiant en journalisme, je suis en deuxième graduat.
Oui.
Et ma question est adressée à monsieur Léonard Moulamba.
Oui.
Et le monsieur a évoqué en commençant que la radio Okapi a vu le jour le 25 février à l'issue de l'accord de siège signé entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. La question est celle de savoir, est-ce que M. Moulamba se réjouit aujourd'hui? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il reconnaît que la radio Okapi a rempli pleinement sa mission? Et maintenant que le gouvernement annonce le retrait de la MONUSCO, est-ce que nous pouvons aussi penser que ce sera aussi la fin de l'existence de radio Okapi? C'est un peu la question.
Merci. Le suivant.
Merci, je réponds au nom de l'étudiant Trésor Mutombo de la première licence en communication sociale. Ma question, je la pose au professeur Ekambo.
Oui.
Au regard du paysage médiatique congolais actuellement, est-ce que les radios ont-ils accompagné le processus de paix en luttant contre l'intolérance et les violences?
Merci. Une autre question? Jusque-là, il n'y a aucune dame qui est passée pour poser de questions. Dans cette émission-là, on respecte les genres. Allez-y.
Merci, je réponds au nom de Kabongondolo Pierre. Je suis en deuxième graduat A. Et ma question est plus particulièrement à M. Paulin Mabunda, qui est le président des Confédérations nationales de radio communautaire. Dans vos propos, vous avez bien dit que le radio communautaires subissent et sont victimes d'une pression politique, en l'occurrence celle de Yumbi. Alors vous, en tant que président, quelle action aussi vous avez menée afin que toutes ces pressions que subissent les radios communautaires puissent être éradiquées? Merci.
Bien. On prend la dernière question pour la première phase. Les autres, comment? Voilà, donc on va prendre la dame et puis on va clôturer la première série des questions.
Merci Jody. Moi c'est Pierre Lunga, G2A. Ma première question c'est à M. Paulin Moulumba.
Mabunda Makino, voilà.
Merci bien. Lorsqu'on a observé pendant la campagne électorale, même après la proclamation des résultats, on a eu comme impression que certaines radios étaient là pour intensifier justement quelques conflits aujourd'hui où certains se réservent de dire hautement fort avec une forme de racisme par rapport à certaines populations de certains coins. À votre niveau en tant que président,
vous voulez dire que les radios ont passé des messages
justement,
hors de tribal?
Il y a certains messages qui ont circulé dans des radios, je me réserve peut-être le nom de cité, qui ont intensifié certains conflits quelque part dans le coin. À son niveau en tant que président, qu'est-ce qu'il fait? Je suis souvent, il y a une émission consacrée aux enfants, paroles d'enfants, mais généralement avec les étudiants, vous n'avez pas souvent de rencontres avec nous. Vous n'attendez que ces jours-ci, par exemple, dans des journées mondiales de la radio, pour s'échanger avec nous. Ça veut dire vous pensez qu'à notre niveau, nous connaissons un peu plus, on n'a plus besoin de la radio Capi, par exemple, pour nous aider à notre parcours.
Bien, on va prendre cette fois-ci les dames, deux dames. Bonjour.
Bonjour, merci pour la parole. Ma question, ça concerne le... Je me nomme Guidi Kibolingo Zemimo, je suis de G1A.
Okay.
Ma question est pour M. Paulin. Il a parlé de la radio Okapi. Il a dit que la
radio... Non, il a parlé des radios communautaires.
Radio communautaire, merci. Il a dit que la radio a été victime des actions politiques. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la radio politique puisse être victime des actions politiques?
Merci. La radio de Yumbi, d'accord. Merci bien. Oui, vous avez la parole.
Bonjour, merci pour la parole. Je réponds au nom de Déborah Nitou, étudiante en G1A. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais connaître le rôle concret de la radio Capi dans les massacres de Beni, Butembo et Yumbi. Parce que je me souviens, pendant la rébellion du M23 à l'Est, surtout à Bukavu, lorsque les rebelles étaient à la porte de la ville, la radio Okapi a été l'une des premières radios qui a démenti l'information qui était pourtant vraie. Alors j'aimerais savoir c'est quoi concrètement le rôle de la radio Okapi dans la promotion de la paix.
D'accord. Merci d'applaudir très 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 fort pour toutes ces questions. Monsieur Léonard Moulamba, vous avez la parole.
Bien, merci. Je commence par le premier étudiant qui a posé la question, qui a parlé plutôt de la télévision. Si je comprends bien son idée, pourquoi la MONUSCO n'a pas la télé? Pourquoi on se contente seulement de la radio? J'ai dit au début que la radio a été créée sur base de l'accord signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Il est prévu donc la radio, pas la télévision. Deuxième raison. La radio est créée pour accompagner le processus de paix. Le pays était divisé, vous connaissez la situation sécuritaire du pays depuis quelques années, des groupes armés un peu partout, les FDLR, donc les forces de libération du Rwanda, etc. On a préféré la radio parce que c'est le moyen qui va plus loin, le moyen qui coûte moins cher. Aujourd'hui, avec les Chinois, on peut avoir une radio à un sou, qui ne coûte rien du tout. Vous allez au marché, vous allez acheter un petit poste de radio qui ne coûte absolument rien du tout.
Ou bien avec votre téléphone, vous pouvez écouter la radio.
Oui, votre téléphone, vous pouvez suivre la radio. Alors que la télévision, c'est un média qui demande des gros moyens. Nous qui sommes à Kinshasa, combien d'entre vous suivent la télévision chaque jour? Il n'y a même pas de courant à tout moment. Alors, pouvez-vous imaginer à l'intérieur du pays, les gens peuvent suivre la télévision? C'est difficile. Les rebelles rwandais étaient disséminés dans la forêt congolaise. Le meilleur moyen pour les atteindre est la radio. On a même créé sur Radio Capi une émission qui s'appelle Gutauka. C'est une émission qui est produite par la division... de désarmement, réinsertion, etc., tout ça. Mais cette émission est en Kinyarwanda parce que elle est destinée aux rebelles rwandais pour les convaincre à déposer les armes, pour les convaincre à rentrer dans leur pays. Vous comprenez que la radio, là, c'est le moyen le plus approprié. Il y a quelque temps, au moment où il y avait encore beaucoup de rebelles rwandais ici, Radio Okapi diffusait en ondes courtes, grâce à la fondation, l'apport de la fondation Hirondelle. On louait des segments sur satellite pour diffuser aussi en ondes courtes. On le faisait parce que on pouvait joindre ces gens-là, on pouvait joindre les groupes de Maï Maï, etc., par les ondes courtes et non par le FM. Voilà pourquoi on a préféré la radio et non la télévision. Agence de presse, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi Radio Capi n'a pas une agence de presse. Mais je sais que Radio Capi a fonctionné à un moment donné comme une agence de presse. Je le dis en connaissance de cause. Le site de Radio Capi, radiocapi.net, que nous avons créé, je crois, en 2004, ce site servait d'agence de presse parce que la plupart des médias ici à Kinshasa n'ont pas beaucoup de moyens, donc à l'époque ne pouvaient pas avoir des nouvelles de l'intérieur du pays. Tout le monde venait puiser sur le site de Radio Capi. Je m'appelle qu'à l'époque, en tout cas, les journaux, les quotidiens de Kinshasa, la moitié presque, la moitié d'articles là-dedans étaient puisés sur Radio Capi. Regardez les journaux, la presse écrite, vous verrez le cycle R.
Même jusqu'aujourd'hui, certains médias continuent à puiser les informations.
Donc, nous avons servi aussi d'agence de presse.
Léonard Moulamba, il y a une question que le rôle de Radio Capi dans le massacre de Yumbi.
Oui,
non, le massacre de Beni, on a parlé de Beni.
La radio ne joue pas. Non, la radio ne joue pas un quelconque rôle dans le massacre. Le travail de la radio, vous êtes ici à l'IFASIC, vous apprenez le journalisme. Le travail du journaliste, c'est de rapporter les faits. Le journaliste ne porte pas une arme pour aller tirer sur les gens. Nous rapportons les faits. Et nous rapportons ces faits-là pour attirer l'attention des décideurs, pour qu'ils prennent des mesures appropriées pour ramener la paix dans ce pays.
Mais d'après elle, Okapi n'avait pas dit la vérité alors que les rebelles étaient à la porte de Bukavu. Si j'ai bien compris la question de la dame qui a intervenu en dernier lieu.
S'il y a une radio dans ce pays qui est plus près de la population à l'intérieur du pays, c'est Radio Capi et aucun autre média. Je crois que j'ai
Vous avez épuisé toutes les questions.
Oui, je crois.
D'accord.
Oui, je voulais juste ajouter une chose. On a l'impression aujourd'hui que le travail de Radio Capi a baissé. Bon, il n'y a pas de sondage, mais une chose est vraie. Dans tous les taxis à Kinshasa, les taxis qui viennent du Japon, il n'y a pas de fréquence qui au-delà de 100. Ça s'arrête en deux. Ce qui fait que Radio Capi, dont la fréquence à Kinshasa est 103.5, n'est pas suivie dans le taxi de Kinshasa. Ça donne l'avantage aux radios qui sont ici, qui émettent sur des fréquences en dessous de 100. On a l'impression. Et puis, le paysage médiatique a changé. En 2002, quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de médias dans notre pays, même à Kinshasa. Mais le paysage médiatique a changé. C'est une très bonne chose. Oui. Qu'il y ait beaucoup de radios, beaucoup de chaînes de télévision. Ça, c'est important.
Et puis, d'accord. Merci Léonard. Je reviens à vous tout à l'heure. Il est temps d'accorder la parole à Paulin Mabunda. Vous avez suivi, il y a des questions qui vous ont été adressées toujours par rapport à la situation des Yumbi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Merci beaucoup. Je vais d'abord saluer les amis, mais je vais souligner un élément. Vous avez suivi tout à l'heure, là, le professeur Raï a précisé. Et moi, je voudrais souligner davantage que la radio, c'est une arme à deux tranchants. Il faut faire attention avec la radio, puisque la radio est une arme à deux tranchants. La radio, et surtout nous également qui sommes les professionnels de la presse, nous devons savoir qu'il y a des limites, non pas par rapport seulement à la déontologie du métier, mais également aux exigences du métier. Vous savez, nous, au niveau des radios communautaires, nous sommes en train d'insister beaucoup plus sur la déontologie. Puisqu'il y a des choses qui ne doivent pas passer à la radio, il ne faut pas seulement dire, puisque nous avons le droit de porter l'information au public, et que vous prenez tout, faites passer tout. Nous avons le droit de censurer, de dire que non, ces messages passent ou ils ne passent pas. Donc, c'est par là où je voulais même dire que, par rapport à la paix, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Que la tolérance, par définition, peut-être nous pouvons trouver ailleurs, mais ça c'est ce que moi j'essaie d'imaginer tout à l'heure là, et que la tolérance peut être définie comme une capacité délibérée d'acceptation de la différence.
Et monsieur Paulin, vous reconnaissez qu'il y a eu des radios, par exemple, pendant la campagne électorale, où certains animateurs injuriaient
j'en arrive.
Messages à caractère tribal.
Pourquoi j'ai eu à souligner sur la tolérance? C'est tout ce qui nous manque, nous, professionnels des médias. Puisque nous avons le rôle, nous, là, de mettre le public de donner la possibilité à ce que le public parle, mais il y a de ces choses que nous ne pouvons pas diffuser. Moi-même, j'ai vécu des radios et des télévisions qui étaient en train de diffuser des messages à l'incitation de la haine. Nous avons suivi, nous avons même...
Est-ce que les radios là ont été sanctionnées?
Nous, au niveau de la Confédération... D'abord, je veux dire une chose. La loi par rapport à la liberté de presse, elle pose beaucoup de problèmes. C'est comme ça qu'il y a eu même un amendement à ce que nous puissions arriver au moins à amender la loi. La loi est un problème. Nous, au niveau des radios communautaires, nous sommes en train de nous battre puisque la loi ne nous reconnaît pas. Il y a une évolution sur le plan des médias, comme le prof l'a dit tout à l'heure, mais la loi congolaise ne prend pas en charge l'organisation et le fonctionnement des radios communautaires, qui existe par contre et qui est en train d'opérer sur le terrain. Et c'est ça le grand problème. Nous, au niveau de la Confédération nationale, nous n'avons pas de sanctions à infliger directement aux radios. Mais si la loi arrivait à nous donner des possibilités, on allait tout simplement sanctionner par la voie d'autorégulation. Donc, par la voie d'autorégulation, nous avons appelé ces stations de radio, mais avec limite, puisque dans la plupart, ce sont des radios commerciales. Or, comme ce sont des radios commerciales, c'était tout à fait difficile à ce qu'ils puissent obéir aux instructions de nous qui sommes les responsables des radios communautaires. Mais c'est des radios communautaires qui ont la matière, qui ont les instructions sur comment la radio communautaire doit fonctionner, nous avons vu qu'ils n'ont pas pu diffuser des messages ou relayer des messages à l'incitation de la haine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la radio de Yumbi. Madame a posé la question, je vous ai tout simplement insisté que, au niveau des radios communautaires, comme j'ai allé dire, tout politicien qui arrive par les moyens des armes, comme par les moyens démocratiques, comme tout à l'heure vous avez vu, les élections, le premier instrument qu'il cherche à maîtriser, c'est la radio. Puis il sait voir qu'avec la radio, il va communiquer avec la communauté. Avec la radio, il va faire passer ses messages. Alors, quand les gens arrivent quelque part...
Et d'ailleurs, la plupart de ces radios appartiennent à des politiques.
Oui, c'est ça, je voulais souligner
oui.
que la radio de Yumbi, c'est une radio d'un politicien de Lamouka. Alors ça posait des problèmes sur tel point qu'il n'a pas permis à ce que la radio puisse fonctionner.
C'est donc ça, on comprend que c'est pour des raisons politiques que cette radio a été... On va donner la parole, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accorder la parole au professeur Jean Chrétien et Cabo, parce qu'il y a eu des questions qui lui ont été également adressées.
J'ai juste une question sur, je crois, les avantages de la radio et des radios communautaires, j'en conviens. Je crois qu'il faut aller au-delà même du contenu. Le fait que ces radios soient éparpillées à travers le pays, ça amène automatiquement une certaine tolérance par la visibilité, plutôt j'allais dire comme c'est la radio, l'audibilité de certains groupes sociaux. Parce que dans certains territoires, vous savez, les routes sont devenues extrêmement mauvaises, les groupes sociaux n'arrivent plus à se fréquenter. Mais si au moins il y a une radio communautaire, cela permet aux uns et aux autres de se connaître, de savoir ce qui se passe dans tel groupe social ou pas. Ça, c'est un avantage. Le pays, il est tellement, tellement vaste. Je crois que nous devons vraiment, au niveau de la loi, comme a dit le président tout à l'heure, favoriser l'installation de ces radios communautaires un peu partout. Cela permet vraiment de donner de l'existence à l'ensemble des communautés que nous constituons ici, les communautés locales. Ça, c'est un gros avantage. Et je crois que par rapport à d'autres médias, les autorisations pour ces radios communautaires sont un peu plus faciles que pour les télévisions, par exemple.
Professeur, nous savons que la mission des médias, c'est d'informer, éduquer, divertir. Mais on a constaté, par exemple, pendant la période de la campagne électorale, certaines radios qui diffusaient des messages, des injures, des messages, l'incitation à la haine tribale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tous ces dérapages qu'on a souvent enregistrés?
Je crois que le premier problème est l'insuffisance des professionnels des médias. On a beau dire qu'il y a trop d'étudiants qui viennent maintenant en communication, il semble qu'il soit à peu près 3-4 000 qui entrent en première année à la place sur la place de Kinshasa, mais quand vous voyez les besoins qui se présentent pour ces radios, c'est absolument rien du tout. Prenons l'IFASIC, je parle sous le contrôle directeur, diplôme en environ 100-150 étudiants journalistes à l'IFASIC. Mais quand vous avez des radios communautaires qui sont agréées, par exemple, si je prends les statistiques du CESAC, 2-3 par mois, vous voyez que c'est vraiment insuffisant. Et ceux qui viennent à ces radios communautaires n'ont rien d'autre que leur petite bonne volonté. Et c'est tout. Il n'y a pas de formation professionnelle, il y a encore moins d'éthique. Ce qui fait qu'ils sont généralement pris par l'ivresse du micro. Vous savez, quand ils ont le micro, ils croient qu'ils sont autorisés à tout dire. Et commencer à leur apprendre vraiment la pratique du métier, je crois que cela devient un autre problème. Peut-être on passerait par une formation de masse de quelques semaines, de quelques mois pour toutes ces personnes, mais ça c'est un problème au niveau plus étatique.
Bien, vos applaudissements au Capi Service en direct de l'IFASIC.
S'il vous plaît.
À l'occasion de la journée de la radio, je reviens à vous tout à l'heure. Je rappelle les termes, quel est le rôle de la radio dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix. Nous allons prendre une autre série de questions. Ceux qui ont des questions peuvent déjà s'aligner. Oui,
je voudrais souligner un élément.
M. Paulin.
Je suis d'accord avec le professeur Chrétien, mais je ne partage pas tout à fait son avis. Puis je suis responsable de radio communautaire, je ne dois pas accepter les accusations gratuites. J'ai dit qu'au niveau de radio communautaire, nous avons un problème de la main-d'œuvre. Et le professeur vient de souligner, et je voudrais profiter également de l'occasion pour dire au recteur, que c'est vous, les professionnels des médias, qui ne voulez pas aller travailler en milieu rural. Vous voulez bien être ici, vous devenez comme les étudiants de l'ISTA, qui sont des petites boutiques ici. Alors que vous, vous n'avez pas la possibilité de former des petites boutiques. Nous avons des radios qui manquent de professionnels. Venez vers nous. Mais nous, au niveau des radios communautaires, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, par exemple, l'UNESCO. Nous avons également certaines organisations avec qui nous travaillons, nous collaborons. Nous organisons des formations des animateurs de ces radios-là. Ils sont formés. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est qu'il y ait, puisque la loi même exige à ce qu'il y ait au moins un professionnel au niveau de chaque radio pour s'occuper de la programmation. Mais c'est vous qui ne venez pas. C'est vous qui chômez ici à Kinshasa. Venez! Combien de fois nous avons lancé des appels à ce que les professionnels des médias, vous qui terminez, venez aller diriger des radios milieu rural. Les radios sont là, oui. Ils cherchent des professionnels, mais les professionnels sont ici en train de chercher, j'ai l'honneur, quelque part. Mais qu'ils viennent pour être des directeurs de...
D'accord, l'invitation est lancée, donc allez à Yumbi et dans les autres radios de proximité pour travailler. Merci. On va prendre une autre série de questions au Capi Service en direct de l'IFASIC à l'occasion de la journée de radio. Quelle est votre question? Bonjour.
Bonjour, merci pour la parole. Je réponds au nom de Nesken Songoma, l'étudiant en G1A à l'IFASIC.
Oui.
Ma question est la suivante. Comment une radio communautaire peut-il accompagner le processus de la paix face à un gouvernement qui ne permet pas la tolérance et qui ne permet pas la liberté d'expression?
Pardon,
aux radios?
Reprenez la question.
La question est ceci.
Oui.
Comment une...
Oui, allez-y.
Comment une radio communautaire peut-elle accompagner le processus de la paix, okay, face à un gouvernement qui ne permet pas l'expression de la liberté?
D'accord, merci.
La deuxième question, c'est ceci,
oui,
s'il vous plaît. Comprenez-moi un peu pour la force, s'il vous plaît.
Comprenez son émotion. Ouais. Hein? Merci de l'encouragement.
Ma deuxième question est la suivante. Pourquoi vous avez choisi le nom Okapi comme votre radio?
Merci pour la question.
Voilà.
Ou les questions, oui.
Merci beaucoup.
Comprenez son émotion. Allez-y. Oui, allez-y, bonjour.
Merci beaucoup, je suis...
Voilà, nous sommes en direct de l'IFASIC, à l'occasion de la journée de la radio. Oui, vous êtes?
Voilà, je suis Enoch Longonia, je suis étudiant en deuxième licence, journalisme et politique extérieure, en radio-télévision.
Oui, Enoch.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les derniers mots du thème, la paix. Je vais toujours dans la logique de ce qui se passe dans l'est du pays, de la RDC, à Beni et d'autres villes qui sont aux alentours.
Oui.
Alors, je pose la question au professeur Ekambo. Cette fois-ci, en tant qu'un communicologue aussi, est-ce que vous savez que nous savons tous que la radio Capi suit la ligne de conduite de la MONUSCO, ce que les journalistes appellent la ligne éditoriale. C'est-à-dire que la radio CAPI doit toujours être en conformité avec la MONUSCO. Et comme nous savons, l'une des missions de la MONUSCO ici en RDC et dans le monde, c'est de maintenir aussi la paix. Alors, est-ce que, et aussi je veux ajouter, les actions de la MONUSCO sont considérées, sont critiquées, sont remises en question et par le gouvernement congolais et par la population?
Quelle est la question?
Voilà, ma question est celle-ci.
Oui.
Si nous pouvons considérer la radio CAPI, est-ce que considérer la radio CAPI comme un média de paix serait un slogan caduque, professeur? Merci.
Merci, le suivant. Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Quelle est votre question? On vous appelle comment?
Je m'appelle Kalon Dambombo, étudiant en G1A. Ma question revient à monsieur Léonard. La radio CAPI était une source très fiable pour d'autres stations congolaises. Où en sommes-nous aujourd'hui? La radio CAPI a perdu ses capacités, la radio CAPI a perdu sa valeur. Quel remède est mis en place par la radio CAPI pour être au sommet de toutes les stations congolaises?
Qu'est-ce que Radio Okapi a perdu concrètement?
Sa place.
Merci. Je me nomme Miakasi Samboata. Je suis étudiant en G1B. Ma question, vous l'avez dit que Radio Okapi a coïncidé avec la conférence intercongolaise de Sound City en 2002. Et elle a participé, c'est ce que vous avez dit, elle a participé énormément pour la stabilité de la paix en République démocratique du Congo. Mais je voulais savoir le plus grand obstacle que Radio CAPI a connu. On essaye de le confirmer parce que même Radio CAPI a été certifié pionnier de radio libre il y a quelques années. Mais j'aimerais savoir l'obstacle que Radio CAPI a toujours connu face à ces grands problèmes qui luttent contre la paix dans l'étendue du Congo.
Merci. Nous avons une dame. On va clôturer avec une dame. Et puis nous allons donner la parole au recteur.
Je réponds au nom de Dean Moukassa, G3A. Ma question est la suivante. On a ressenti avec le pouvoir sortant, il y avait un bras de fer entre la MONUSCO et le pouvoir. Parce qu'à un certain moment, il y avait une confusion par rapport à l'information. Où, quand la radio CAPI donnait des informations par rapport à ce qui se passait à l'Est, c'était pas conforme à ce que le ministre de médias ou bien le porte-parole disait. La question est souvent de savoir, est-ce qu'avec le pouvoir en place maintenant, il y aura collaboration pour qu'on ait une information sur... Parce qu'à un moment, il y avait eu une photo qui circulait où on avait vu une voiture de la MONUSCO transporter de minerais. Mais si je ne me trompe pas, ça, on n'a jamais en parlé sur Radio CAPI. Et la deuxième question, je veux savoir, à chaque arrivée d'un pouvoir, ça joue un rôle par rapport au traitement de l'information. Comment faire pour lutter par rapport à ces fléaux?
Bien, merci. Merci d'applaudir pour toutes ces questions. On va donner la parole au professeur Mukeni Lapes, qui a sûrement quelque chose à dire, sûrement par rapport au message de M. Paulin Mabunda.
Oui, oui, je voulais accompagner M. Paulin Mabunda pour lui dire que un autre problème ici, c'est pour récolter justement les journalistes ici, c'est les langues nationales. La Fondation Hirondelle, l'année passée, est venue organiser un test ici, mais essentiellement pour prendre des journalistes qui parleraient les langues nationales. Eh bien, on a été surpris parce que, bon, à part quelques étudiants qui pouvaient s'exprimer en Tshiluba, on recherchait essentiellement le Tshiluba, le Swahili, le Kikongo, mais on n'en a pas trouvé grand monde. Donc, il faut que vous aussi, étudiants, vous puissiez vous entraîner dans les langues nationales pour pouvoir aller occuper des postes dans les radios communautaires. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous devez vous mettre en tête qu'il va arriver un moment où il faut quitter Kinshasa et aller travailler à l'intérieur du pays. Or ça, je vous connais suffisamment, vous n'êtes pas prêt à le faire.
Voilà, on vous connaît suffisamment, vous n'êtes pas prêt à le faire. Alors, je vais donner la parole au professeur Ekambo. Il y a eu des questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui ont
merci
posé des questions?
Merci beaucoup, Jody. Je vais dire à l'étudiant ceci, que nous devons d'abord établir une différence entre la paix, qui est l'objectif poursuivi par et la radio et les institutions de la République, et le processus qui conduit vers la paix, c'est-à-dire la pacification. Je suppose que le jour où nous atteindrons la paix, la radio Okapi ne devrait plus exister en tant qu'instrument de la MONUSCO, parce que la MONUSCO aura rempli son rôle. Donc, la radio Okapi, je dirais, demeure en sursis tant que nous n'avons pas encore atteint la paix, tant que nous sommes encore en processus de pacification. Léonard vous a dit tout à l'heure que la radio a démarré au moment où l'on commençait les négociations, où le processus de pacification se réalisait entre les belligérants. Alors, à ce propos, il faut dire ceci, que le débat, qui est aussi le nôtre, le vôtre également, est celui de savoir quand la paix sera revenue totalement, quand la MONUSCO aura achevé son travail, que pourra devenir la radio Okapi. Je dis, c'est votre réflexion et la nôtre également. Parce que l'IFASIC ne peut pas se sentir éloigné de la radio Okapi. L'histoire montre que quand la radio Okapi s'est installée dans ce pays, elle a commencé par débaucher des journalistes qui étaient déjà en service dans certaines stations, principalement la RTNC. Mais la radio Okapi a organisé également en ce moment un concours auquel ont participé beaucoup d'étudiants en formation en communication. Et les étudiants de l'IFASIC ont gagné largement, je dirais même très largement, les places qu'ils occupent aujourd'hui à Radio Okapi. Radio Okapi est devenue d'une certaine façon la radio des anciens de l'IFASIC. Le grand patron de la rédaction de Radio Okapi, Léonard Moulamba, qui vous avez ici, qui est à ma gauche, c'est un ancien d'ici. Et non seulement il a formé ceux qui étaient arrivés au début, venant de l'IFASIC, il continue à en former quand ils vont en stage. Donc cette réflexion sur le produit Radio Okapi, après la restauration de la paix, après le départ de la MONUSCO, doit être une réflexion permanente. On vous l'a dit, Radio Okapi a l'avantage de couvrir tout le pays. On vous l'a également dit, le recteur vient de souligner, Radio Okapi a la vocation de promouvoir les langues nationales. Radio Okapi, ainsi de suite, nous devons toujours réfléchir sur ce produit-là. Il ne faut pas qu'il disparaisse le jour où on aura restauré la paix. La paix est un avantage pour le pays, oui. Radio Okapi également.
Merci, professeur. Monsieur Léonard Moulamba. On va bientôt clôturer cette première partie.
Ok, je commence par la question sur Okapi. Pourquoi le nom Okapi? Ce nom a été choisi tout au début de la radio parce qu'on cherchait un nom. On avait demandé aux Congolais de proposer le nom pour cette nouvelle radio qui allait commencer à fonctionner. Et on a sillonné le pays pour poser la question à beaucoup de Congolais dans diverses provinces. C'est à l'étape de Kisangani qu'un Congolais anonyme a proposé le nom de Okapi. Et nous avons accepté ce nom. Pourquoi? Parce que Okapi, c'est un animal emblématique, un animal pacifique, un animal qu'on trouve nulle part qu'ici au Congo. Okapi, il n'y en a qu'ici. Et Okapi, c'est Okapi dans toutes les quatre langues nationales. En Chiluba, c'est Okapi. En Lingala, c'est Okapi.
En Kikongo, c'est Okapi.
En Swahili, c'est Moulamba, Okapi.
On va bientôt terminer cette
radio Okapi. Oui, voilà.
Il y a deux questions qui sont adressées. Okapi est toujours un média de paix. Et puis, quand il y a bras de fer avec le gouvernement, comment éviter tout ça avec le nouveau régime?
Vous savez, on ne fait pas ce métier pour faire plaisir à qui que ce soit. On n'est pas là pour plaire au gouvernement ou pour être l'ennemi du gouvernement. On est là pour donner l'information. Que l'information plaise ou pas au gouvernement, ce n'est pas notre affaire. Nous, en tant que journalistes, nous donnons l'information. Radio Okapi est très souvent en conformité avec la MONUSCO dans les informations, jamais de contradiction, si je comprends bien l'idée.
Radio Okapi n'en a pas parlé d'après l'étudiant.
Bon, nous en avons parlé. Quand on a arrêté des casques bleus à Kindu dans le trafic des perroquets, nous en avons parlé. Allez fouiller sur notre site, vous trouverez ça. Quand on a arrêté des éléments dans le trafic de minerais, nous en avons parlé.
Alors, pour terminer,
je termine par cet exemple.
Allez-y.
Le patron des opérations de maintien de la paix, il y a quelques années, Hervé Latsous, avait dit que voilà, on ne doit plus utiliser le terme drone pour les Nations Unies. Il faut dire engin non armé, machin, tout ça. Moi, j'étais rédacteur en chef. J'ai dit à mes chefs que à Radio Okapi, nous allons continuer à utiliser ce terme parce que c'est le terme qui est mieux compris par les Congolais. Et nous avons continué à utiliser donc ce terme drone contre la position du chef de mission des opérations de maintien.
Alors, pour terminer, Léonard, qu'est-ce qu'il faut pour que les radios continuent à jouer ces rôles, à promouvoir la paix, les dialogues et la tolérance? En juste quelques secondes.
Non, ça c'est tout un débat. En quelques secondes, bon, quelques secondes journalistiques, je comprends. La radio continue à informer les gens, à prôner la paix, à interdire la haine sur les antennes de Radio Okapi. Aucun discours de haine, aucun discours de ségrégation ne peut passer. Il est interdit aux journalistes de Radio Okapi d'avoir une opinion à l'antenne.
D'accord.
C'est interdit.
Monsieur Paulin Mabunda, on va terminer avec vous. Votre dernier mot pour que les radios continuent à promouvoir le dialogue, la paix et la tolérance.
Oui, la seule recommandation, nous avions d'ailleurs demandé à ce qui est toutes les radios qui font se mettre dans la vulgarisation ou dans la propagation des messages de la haine et seront sévèrement sanctionnées. Et nous en tiendrons à ça. Et nous, notre rôle, c'est celui d'accompagner les communautés, également les autorités. Nous n'avons pas de parti pris. Nous sommes là pour le développement et nous demandons les radios de travailler pour la paix et d'insister sur la tolérance au niveau des micros, que vous cédez, qu'ils cèdent au niveau du public, et ne pas faire diffuser les messages de haine, rien que les messages de paix.
Sous vos applaudissements, merci. Nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service en direct de l'IFASIC à l'occasion de la journée de la radio. Nous disons merci au professeur Jean-Christian Ekambo, communicologue, pour avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Léonard Moulamba, journaliste et ancien rédacteur de Radio Okapi. Et merci à M. Paulin Mabunda, président de la Confédération nationale des radios communautaires de la RDC. Et merci à vous, chers étudiants, d'avoir participé à cette émission Okapi Service. Et à la prochaine.